Conférence en Corée du Sud du 13 au 15 octobre 2023. La manifestation de la vie éternelle, message 2. Ce soir, on commence avec le résumé. Ce résumé parle spécialement de 1 Jean. Beaucoup d'entre nous apprécient le ministère de l'apôtre Paul. Je connais beaucoup de gens qui ne parlent que des épîtres de Paul. Mais nous devons tous réaliser que Dieu a utilisé différents apôtres pour différents plans et différents desseins. Dieu n'a pas utilisé qu'un seul apôtre. Même les 4 évangiles, par exemple. Combien y a-t-il d'évangiles? 4. Pourquoi 4? 1 suffirait, n'est-ce pas? Non? Si tu dis non, il faut que tu m'expliques pourquoi pas. Que penses-tu, BJ? Est-ce qu'un évangile ne suffit pas? Heureusement que tu n'es pas l'auteur. Parce que notre Dieu, particulièrement notre Seigneur Jésus-Christ, est si grand, si merveilleux. Un évangile ne suffit pas. Il y a 4 évangiles pour le décrire. Pour comprendre cela, il faut voir dans Ézéchiel, il y a 4 faces. Ici, tu peux voir les chérubins qui ont 4 faces. Combien de faces as-tu? Une, c'est déjà assez compliqué, n'est-ce pas? Mais réalises-tu que notre Seigneur a 4 faces? C'est si merveilleux. Et ces 4 faces représente aussi toute la création de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. En face, il y a le visage d'un homme. Puis, du côté droit, tu as la face d'un bœuf. Du côté gauche, il y a la face d'un lion. Et derrière, tu as la face d'un aigle. Cela représente que notre Seigneur est à la fois un homme en face et il est aussi Dieu parce que l'aigle est céleste. Il vole là-haut. Il est le roi de tous les oiseaux. Toute la création est ailée. Il faut ces évangiles pour montrer que notre Seigneur est un vrai homme. C'est pourquoi le Seigneur est venu, afin de devenir un homme comme toi et moi. Mais derrière, de manière cachée, il est Dieu. Il est descendu du ciel. Vous savez que l'aigle, c'est le roi des oiseaux. Selon la Bible, Dieu a sauvé son peuple d'Égypte par des ailes d'aigle. Ainsi l'aigle signifie que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est aussi Dieu. Puis, en venant sur cette terre, lui-même a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, pour être un serviteur. C'est pourquoi il est aussi un bœuf, pour servir. Que préfères-tu, servir le Seigneur ou laisser le Seigneur te servir? Dis-moi, qu'est-ce qui est mieux? Tu le sers ou lui te sert? Qu'est-ce qui est le meilleur? J'aime le servir. Tu vois, ça c'est le concept naturel. Je veux le servir. Mais tu sais, si nous servons le Seigneur, nous sommes si incapables. Tant de gens servent le Seigneur aujourd'hui, mais c'est un grand chaos. Si tu sers le Seigneur à ta manière, ce n'est pas bon. Tu créeras plus de problèmes que de bien. Je ne sais pas si tu ressens cela ou pas, mais très souvent j'ai dit au Seigneur, je ne peux rien faire pour toi. Mais laisser le Seigneur te servir, c'est un mystère. Tu penses que le Seigneur a besoin de toi plus que toi, tu n'as besoin de lui? Frère, est-ce que toi, tu as besoin de lui ou lui a besoin de toi? Les deux. Tu dois dire, Seigneur, viens et aide-moi. Biché, que veux-tu faire? Est-ce que tu veux qu'il te serve ou est-ce que tu veux le servir? Ce n'est que lorsqu'il te sert que tu es capable de le servir, non selon toi, mais selon lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Ce n'est pas moi, mais Christ. » Que peux-tu faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Paul a dit dans Corinthiens, à l'église à Corinth, « J'ai fait plus que les autres apôtres, toutefois par moi, pas moi. » Ça, c'est très important. Mais la grâce de Dieu en moi, c'est Christ en moi. C'est ce que Paul a écrit dans Philippiens chapitre 3, pardon, chapitre 2. Il dit « Que cette pensée soit en vous qui était aussi en Jésus-Christ ». Bien qu'il était Dieu, bien qu'il avait la forme de Dieu, il a laissé cela. Il n'a pas juste dit « Oui, je suis Dieu ». Il n'est pas venu en disant « Je suis Dieu ». Et il a dit qu'il s'est dépouillé lui-même et qu'il s'est humilié. Non seulement il est devenu un homme, mais il est devenu un esclave. Il est mort pour toi. Il a porté nos péchés. À cause de nous, il a passé par toutes sortes de souffrances pour comprendre nos problèmes. Vous savez, vous ne pouvez aider ni servir quiconque, si vous ne comprenez pas ses problèmes, si vous ne sympathisez pas avec lui. Ainsi, le Seigneur Jésus est venu en tant qu'esclave. Il a passé par toutes sortes de souffrances afin que toi et moi, même toi et moi, on ne sait pas par quoi il est passé. Il est devenu un esclave. Il est devenu un esclave. C'est pourquoi il est dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. D'autre part, il est le roi, il est un lion. Le lion, c'est le roi de tous les animaux sur cette terre. As-tu déjà vu ce film de Disney, Le Roi Lion? Qu'est-ce qu'un lion? C'est un roi. C'est pourquoi la tribu de Juda est appelée la tribu du lion. Il est parlé du lion de la tribu de Juda, c'est le roi. Dans Apocalypse 5, lorsque le Seigneur est monté au ciel, Jean, à ce moment-là, il a vu cette scène dans les cieux. D'abord, il a vu que personne n'était qualifié pour prendre ce petit livre de la main de Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas juger par lui-même. Il est le juge, mais il veut que l'homme juge. Mais personne n'était qualifié. Ainsi, Jean, l'apôtre Jean, pleurait. Il était si triste que personne ne soit trouvé digne de prendre ce livre. Alors un des anges est venu et a dit à Jean, ne pleure pas, ne pleure pas. Regarde, voici le lion de la tribu de Juda. Il est un lion. Tu connais le Seigneur comme agneau, n'est-ce pas? Et dans Jean 1, 29, il est dit, voici l'agneau de Dieu. Mais maintenant, dans Apocalypse, il est dit, voici le lion de la tribu de Juda. Est-il un agneau ou un lion? Connais-tu le Seigneur comme le lion ou seulement comme l'agneau de Dieu qui est venu pour souffrir, qui était si faible, qui ne s'est pas battu, qui a été d'accord d'être crucifié? Qu'en est-il du lion? Quand tu vois un lion, qu'est-ce que tu fais? Tu pars en courant. Ne pars-tu pas en courant quand tu vois un lion? Pourquoi? Parce qu'il va te dévorer. Notre Seigneur est le roi des rois. Dans son ascension, il est le roi. C'est pourquoi tu as besoin de 4 évangiles. L'évangile de Matthieu parle du royaume. Il est l'héritier du royaume. Il est le roi. Pardon, j'ai parlé trop vite. Elle a parlé trop vite pour la traductrice. Il est un roi merveilleux. Mais pouvez-vous imaginer ce roi, quand il est venu, et c'est ce qu'il est dit dans Zacharie 9, verset 9, voici, le roi vient, mais dans sa première venue, il ne s'est pas montré en tant que roi. Il s'est montré en tant que serviteur, amenant le salut et monté sur un âne. Chuchang, si tu es le roi, je suis sûre que tu ne serais pas monté sur un âne, mais une Porsche. Ou une Maybach. Mais le Seigneur est venu sur un âne humble, nous apportant le salut. Il n'y a jamais eu un tel roi sur cette terre qui mourrait pour son peuple. Ils veulent tous régner, n'est-ce pas? Et toutefois, lorsque le Seigneur est venu, il est venu en tant qu'homme, comme toi et moi, pour exprimer Dieu. C'est pourquoi il a besoin de l'évangile de Luc. L'évangile de Luc nous montre notre Seigneur Jésus en tant que véritable homme. Et toutefois, il a besoin de Jean pour nous montrer. C'est le dernier évangile et il nous montre qu'il était Dieu. Alors, combien connais-tu le Seigneur Jésus? Est-ce que tu le connais bien? Quel aspect de Christ apprécies-tu, David? Doctrinalement, ce soir, tu diras tous les aspects. Je sais que c'est ce que tu vas répondre. Mais ça, c'est selon la doctrine. Qu'en est-il dans ton expérience? Quel aspect expérimentes-tu le plus? Seigneur, aide-moi. Mais si tu connais le royaume de Dieu et que ton but, c'est le royaume, tu apprécieras Christ en tant que roi. N'est-ce pas? Et si tu apprécies cette vie éternelle merveilleuse en lui il y a la vie, parce qu'il est le Dieu de vie. Et toi, tu es né de Dieu. Alors, cette vie éternelle, cette vie merveilleuse est entrée en toi. Alors, tu apprécieras que ce merveilleux Seigneur Jésus-Christ n'est rien d'autre, personne d'autre que Dieu lui-même. C'est pourquoi tu as Ésaïe 9, verset 6. Un enfant nous est né et son nom est le Dieu puissant. C'est le Dieu puissant, mais c'est caché, c'est derrière. Et c'est le Dieu, le Père éternel. Et la domination reposera sur son épaule. Son royaume grandira sans limite. Finalement, notre Seigneur règnera sur l'univers entier. Il est déjà assis sur le trône. Mais il attend que son royaume soit bâti sur cette terre, que Sion soit bâti. C'est son royaume. Il faut voir. Le but de ce Dieu merveilleux. Sinon, tu n'auras pas de chemin pour continuer. Il est vraiment merveilleux. Maintenant, le premier évangile, c'est l'évangile du royaume. Et Christ est le roi. Pourquoi est-ce le premier évangile? Parce que c'est le but et le dessein de Dieu. L'homme est créé par Dieu pour dominer, pour régner. Ta destinée, jeune frère, c'est d'être un roi. Peut-être que Dieu ne comprend pas maintenant, mais c'est déjà au tout début dans Genèse 1, Dieu a planifié que l'homme règne pour Dieu. Dieu n'a pas désigné un chien pour régner. Est-ce qu'un chien ou des chiens peuvent régner en Corée? Ou des ânes? Quel animal pourrait régner? Tobia, qu'en est-il un cheval? Qu'en est-il des oiseaux? Non? Ou un âne? Ou un une dinde? Ou un singe. Aucune autre création de Dieu ne peut régner. L'homme peut régner. Mais malheureusement, Satan est venu d'abord et a injecté une vie pécheresse et mauvaise dans l'homme. Le péché est entré dans l'homme. Si on lit Romains 5, commençant par le verset 13, on voit qu'à cause de la désobéissance d'Adam, le péché est venu. Et avec le péché, la mort. Et c'est encore pire. Ainsi, Éphésiens 2 dit que nous étions tous morts dans les péchés et dans les transgressions. Nous ne le savons pas que nous sommes morts. Comment est-ce qu'un homme mort peut parler ou courir? D'après la vision de Dieu, les êtres humains déchus sont morts dans les péchés et les transgressions. Tu penses être vivant? Ils ne réalisent pas qu'ils sont morts. C'est très triste. C'est pourquoi l'homme a besoin de salut. Ils ne réalisent pas qu'ils ont besoin de salut. Ainsi, il faut un autre évangile, en particulier celui de Jean, qui parle de la vie. Si une personne est morte, de quoi a-t-elle besoin? De vie. C'est pourquoi, dans l'évangile de Jean, le Seigneur dit « Je suis la résurrection et la vie ». Le Seigneur n'a pas seulement dit « Je suis la vie ». Il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Pourquoi ? Parce que nous étions tous morts. Pas encore morts physiquement, mais spirituellement, nous étions morts dans les péchés et les transgressions. C'est pourquoi les gens disent « Dieu, qui est Dieu ? Je n'y crois pas. » Qu'est-ce que cela ? C'est la mort spirituelle. Ils sont morts, ils sont dans les ténèbres, ils ne voient pas. Ainsi, les gens sont désobéissants, ils se rebellent contre Dieu, ils commettent tant de choses terribles, de mal. Ce n'est pas juste pécherait. Ce n'est pas juste du péché, c'est la mort spirituelle. C'est pourquoi nous avons besoin de l'évangile de Jean. Lisons Jean 1. Jean 1, 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est le verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1 nous dit que ce Dieu merveilleux était la parole au commencement. C'est un mystère. Ne pensez pas que la Bible soit un livre commun. C'est la parole vivante de Dieu. Il est bien meilleur que n'importe quel autre livre. Même dans la chrétienté, il y a beaucoup de livres. Il y a des milliers de volumes, de livres écrits par des chrétiens. Mais Dieu nous a donné combien de livres ? Un livre. Est-ce que c'est assez pour toi ? Es-tu sûr ? Je vais aller chez toi et regarder dans ta bibliothèque. Tu sais, frère, j'ai rassemblé tant de livres lorsque j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'un livre. C'est le livre de vie. La parole de Dieu est vivante. Aucun autre livre écrit par l'homme ne pourra jamais remplacer la Bible. Il ne donne pas la vie. Il te donne des interprétations de la parole de Dieu, quelques connaissances. C'est pourquoi le Seigneur, quand il est venu sur la terre, a dit, non, quand il est venu sur terre, les scribes, les pharisiens connaissaient les Écritures, mais il n'y avait pas la vie. Ce n'est pas la connaissance de la Bible, c'est la parole vivante de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ces mots sont très simples. La Bible est la parole de Dieu pour toi. Elle te donne la vie. Est-ce que tu dois tout savoir au sujet du poulet avant de manger du poulet? Est-ce que tu dois connaître tout au sujet du poulet? Non. Mais tu peux le manger, l'apprécier, parce que c'est organique. Mais le menu et la description du poulet, ça, tu ne peux pas le manger. Est-ce que tu aimes le poulet? Je te donne une description du poulet. Même si je te le décris si bien, ce n'est pas comestible. Tu as besoin de la réalité, de la substance. L'humanité déchue a été trompée par l'ennemi pour prendre la connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, que préfères-tu, Chuchang? Ce qui est bien ou ce qui est mal? Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères le bien? Moi aussi. Mais, est-ce que tu fais ce qui est bien? As-tu déjà lu Romains 7? Qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je fais ce que je ne veux pas faire, et ce que je veux pas faire, je le fais. Tu veux faire le bien? Mais est-ce que tu le fais toujours? Alors, à quoi ça sert de savoir ce qui est bien si tu ne le fais pas? Dis-moi. Et tu sais ce qui est mal? N'est-ce pas? Est-ce que tu rejettes tout le mal? Alors, à quoi ça sert de savoir ce qui est mauvais si tu ne peux pas le rejeter? Dis-moi. Savoir ce qui est bien et mal. Mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et ce que tu ne veux pas faire, Paul dit, je l'ai fait. C'est pourquoi il s'écrit « misérable que je suis ». Il était misérable. Ce dont nous avons besoin, c'est la vie de Dieu. C'est la vie divine, une vie nouvelle, la vie éternelle qui entre en nous, dans notre esprit, afin que nous naissions de nouveau. Nous sommes nés de Dieu, nous avons sa vie maintenant en nous. Cette vie ne dépend pas du bien et du mal, mais elle dépend de ce que Dieu veut. C'est la vie qui vainc le mal. Et c'est la vie qui fait ce que Dieu veut que nous fassions. Et avec cette vie, c'est très naturel pour nous de faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. mais sans cette vie éternelle. Tu sais, je devrais faire ça, mais je n'y arrive pas, je ne le fais pas. C'est pourquoi Paul a écrit Romains 7. Et il dit, c'est pourquoi ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché dans ma chair, qui habite dans ma chair. C'est le péché en moi qui fait ce que je ne voulais pas faire. Adam et Ève devaient choisir entre ces deux arbres. Maintenant, Chuchang, je suis sûre que certains vont te demander, si tu parles avec assez de gens, pourquoi Dieu a-t-il utilisé deux arbres dans le jardin d'Éden pour nous montrer ses principes? Pourquoi un arbre? Pourquoi est-ce que c'est juste un arbre comme ça? Non, un arbre c'est organique. Il est vivant. Il porte du fruit pour que tu le manges. Et lorsque tu manges, qu'est-ce qui se passe? Cela entre en toi. Ainsi, si l'arbre de vie signifie la vie de Dieu, qu'en est-il de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Le Seigneur a dit, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Alors qu'est-ce que cet arbre? C'est le péché, la nature de Satan qui est entrée en toi. Malheureusement, l'homme a été trompé par le diable et il a mangé de cet arbre. Il a mangé de ce mauvais fruit. Pourquoi est-ce que ce n'est pas appelé l'arbre de la mort? Pourquoi? Est-ce que tu ne l'appellerais pas l'arbre de la mort? S'il y a l'arbre de la vie, est-ce que ça, ce n'est pas l'arbre de la mort? Oui, c'est trop évident. Ah, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que ce soit évident? Parce que Satan est un trompeur, c'est le père des mensonges. Cela semble bien. Ça semble logique. Qu'en est-il? Pourquoi est-ce faux la connaissance? Une fois, alors qu'on parlait de la connaissance du bien et du mal, quelqu'un a dit, mais pourquoi c'est mal d'avoir la connaissance? Qu'est-ce que tu réponds? Pourquoi c'est faux d'avoir la connaissance? Est-ce que c'est mauvais? Maintenant, dis-moi. Tu vois, tu ne peux pas répondre. C'est si difficile de dire que la connaissance est mauvaise. Qu'est-ce qui est si mauvais au sujet d'avoir de la connaissance? Avoir la connaissance et ne pas pouvoir la faire, tu emploies même la connaissance pour faire le mal. Est-ce que la science est bonne? Oui. Là, en Corée, vous avez beaucoup de technologies avancées. Mais tu peux aussi utiliser la technologie pour tuer, pour détruire l'humanité. la même connaissance peut être utilisée pour quelque chose de bien, et en même temps, elle peut être utilisée pour te tuer. L'homme ne sait pas quoi faire de la connaissance. Oui, il y a l'aspect du bien. Mais cela arrive à un point que ce qui est bien devient mauvais. Au moment de Noël, les gens utilisent des feux d'artifice. Ou les jours de l'indépendance, il y a des feux d'artifice. Mais il y a aussi une autre sorte de feu d'artifice qui ressemble à un champignon. C'est un champignon nucléaire. C'est un feu d'artifice. Ça dépend. À la fin, ce qui est bien devient mauvais. Laissez-moi vous demander, est-ce que la liberté est bonne? C'est difficile de répondre. En Amérique aujourd'hui, tu peux voir que la liberté peut être mal employée et elle est très dangereuse. Elle détruit tout. N'est-ce pas, BJ? Tu vis en Amérique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ainsi, pour les hommes déchus, c'est la destruction, le chaos. L'homme va tout détruire. Regarde la Deuxième Guerre mondiale. Ça a presque détruit toute l'Europe. L'homme peut bâtir de belles villes, mais il peut aussi détruire. C'est parce que la mort intervient. Où vois-tu cela dans la Bible? Dans Genèse 1. Lis en Genèse 1. Genèse 1. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le tout début, avant que quoi que ce soit d'autre ne soit là. C'était positif. Et le verset 2 est négatif. La terre. Certaines traductions disent « était informe et vide » et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ainsi il est dit « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre et la terre était un chaos, sans forme et vide ». En hébreu, il est dit que c'est un tohu-bohu, un chaos. Vijay, si tu crées quelque chose, est-ce que tu vas créer un chaos, un tohu-bohu? À moins d'être un fou. À moins d'être hors de sens. Tu crées le chaos. Est-ce que tu penses que Dieu est fou et qu'il crée un chaos? Qu'est-ce que tu penses? Non. La véritable traduction ici, au verset 2, c'est « Et la terre devint ». Pas « Elle était informe », mais « Elle devint ». Informe et vide. En hébreu, c'est « tohu bohu ». Ça, c'est la description d'une pleine destruction. Est-ce que tu penses que Dieu créerait une masse chaotique? Est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu me le prouves? On va dans Job 38. Job 38. L'Éternel répondit à Job. Donc, oui, Job 38, depuis le verset 1. Non, il faut commencer au verset 2. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? S'interrin comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Le verset 4 dit, Dieu parle à Job, n'est-ce pas? Où étais-tu quand je fondais le chaos? Est-ce que Dieu a créé le chaos? Dieu a fondé la terre. Est-ce que la fondation, c'est un chaos? Est-ce que quand tu bâtis une maison, tu jettes tout là, comme ça? Est-ce que tu crées comme ça une fondation? Non, ça doit être solide. La fondation doit être quelque chose de très solide, n'est-ce pas? Sinon, toute la maison va s'effondrer. Là, ce sera le chaos. Où étais-tu, Job? Quand je fondais la terre, Dieu n'a pas créé une terre chaotique. Dis-moi si tu as de l'intelligence. Penses-tu que Dieu n'a pas d'intelligence? Même si tu n'es pas un architecte et que tu bâtis une maison avec ton père, tu sais comment établir une bonne fondation parce que tu ne veux pas que ta maison s'effondre. Est-ce que ton père est un architecte? Non, mais il aime construire. Ainsi, est-ce qu'il construit un chaos? Ainsi, la terre n'était pas un chaos, elle est devenue un chaos. Pourquoi? À cause de la rébellion de Satan. C'était un archange. Il a été créé très sage, plein d'intelligence. Dieu a fait que Lucifer, à ce moment-là, règne sur la création pré-adamique. Et il continue à demander à Job. Qui en a fixé les dimensions? Est-ce que tu crois que dans un chaos, il y a des dimensions? Tu n'as pas besoin de dimension si tu crées un chaos. Ah, si tu penses que Dieu a créé un chaos? David. Le chaos n'arrive que s'il y a la guerre ou une sorte de destruction. Dieu dit, ou qui a étendu sur elle le cordeau? Ça doit être très précis, n'est-ce pas? S'il faut un cordeau. Même si je ne suis pas un architecte, est-ce que j'ai raison? Oui, tu as très raison. Tout à fait raison. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Même, il y avait une pierre angulaire dans cette fondation, comme Pierre en parle. Mais comment est-ce que l'Église est devenue si chaotique? Est-ce que Dieu a bâti une Église chaotique? Chu Chang, est-ce que tu penses que Dieu crée une Église chaotique? Non. Il est dit que l'Église a été établie sur les apôtres et Christ est la pierre angulaire. Mais qu'est-il arrivé à l'Église? Comment est-ce possible qu'elle soit devenue un chaos? Pourquoi? Que s'est-il passé? Quelque chose est arrivé. Tu peux lire Apocalypse 2 et 3. Le peuple de Dieu est devenu rebelle, désobéissant. Ils sont partis de la vérité, se sont éloignés. Ils ont arrêté de manger de l'arbre de vie. Ils ont aimé le monde. Ils ont toléré Jézabel. Et même à Sardes, ils sont devenus morts. Est-ce que Dieu a commencé une église morte? Est-ce que tu penses qu'au commencement, Dieu bâtit une église morte? Est-ce que ça te paraît juste? Qu'en penses-tu? Il bâtit une église tiède? Non, ça ne vient pas de Dieu. Ne pensez pas que tous ces problèmes viennent de Dieu. Il a créé un chaos dès le début. Non, 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 non. Ne tolère pas ça. Ne sois pas d'accord avec ça, parce que ça ne vient pas de Dieu. Ainsi qu'est-il arrivé dans Genèse 1, verset 2, la terre est devenue un tohu-bohu. Les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Et il y avait de l'eau sur toute la terre, comme du temps de Noé. Le jugement est venu à ce moment-là. Il faut comprendre que les ténèbres est un signe de jugement, comme en Égypte. Dieu a envoyé les ténèbres. Comme dans Apocalypse 16, le dernier, septième coupe, il y a des ténèbres. Le chaos, le jugement. Dans 2 Pierre 3, le Seigneur va tout détruire et il va tout réduire en cendres. Alors quelqu'un va dire, « Oh, regarde, le Seigneur a créé tout ce chaos. » Non, c'est le jugement. Mais louez le Seigneur. Il n'a pas abandonné, il est revenu. pour rénover, pour restaurer. Au verset 3, dans Genèse, en 6 jours, vous pouvez le lire vous-même. Il a restauré la lumière. La lumière est importante. Car sans lumière, tu ne peux rien faire. Il faut d'abord avoir la lumière. Imagine qu'il n'y a pas de lumière ici, pas d'électricité. Est-ce qu'on peut avoir une réunion? Est-ce qu'on essaye? Éteins. On ne peut rien faire s'il y a les ténèbres. C'est pourquoi, dans les épîtres de Jean et aussi dans l'évangile de Jean, les premières choses mentionnées, c'est la vie et la lumière. Nous, chrétiens, étant nés de Dieu, nous devons être plein de lumière intérieurement. Nous ne devons pas être dans les ténèbres. Ce n'est pas bon d'être dans les ténèbres. Tu as peut-être beaucoup de connaissances, mais tu demeures dans les ténèbres. C'est pourquoi, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, il dit que la parole était avec Dieu. Il a dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et que en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Si vraiment tu as cette vie éternelle en toi, tu dois être une personne qui est dans la lumière. Tu comprends. Tu as la lumière. Parce que cette vie va te donner la lumière. Et la lumière brille dans les ténèbres. Pourquoi n'y a-t-il pas de ténèbres ici? À cause de la lumière. Et c'est pourquoi l'évangile de vie est très important. Ce n'est pas juste le salut. Le salut est merveilleux. Tu reçois le pardon par son sang précieux. Jean en parle aussi. Mais il faut plus que juste être pardonné et lavé par le sang de Jésus-Christ. Mais il faut que la lumière opère en nous et qu'elle nous ouvre les yeux, qu'elle brille en nous. C'est important. Sans quoi, tôt ou tard, ce sera chaotique. Comme dans Genèse 1, verset 2. Ne pensez pas que ça ne peut pas arriver à nouveau. Ça s'est reproduit du temps de Noé. Dieu a envoyé le déluge pour tout détruire et c'était à nouveau le chaos. Mais ce n'était pas comme ça avant. C'est devenu ainsi à cause du jugement. C'est arrivé à Israël. Ils étaient si fiers d'avoir un temple si merveilleux, des pierres si belles. Et même les disciples du Seigneur lui ont dit « Regarde !» Est-ce que c'est resté ainsi ? Qu'a dit le Seigneur? Qu'a-t-il dit à ses disciples? Il ne restera pas pierre sur pierre. Il n'en sera point qui restera, tout sera détruit. Et ça s'est passé en l'an 70. Pourquoi est-ce que ça s'est produit? Parce qu'ils ont rejeté le Fils de Dieu et l'ont même crucifié. Est-ce que ce n'est pas triste? Jean 1 dit que le Dieu qui a tout créé est venu dans le monde et le monde a été créé par lui. Et le monde l'a reçu? Est-ce que c'est ainsi? Qu'a-t-il dit? Que le monde ne l'a pas reçu. Il ne le connaissait pas. Mais après, il est venu vers son propre peuple, les fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui avaient les Écritures, la loi. Est-ce qu'ils ont reçu le Seigneur? Que s'est-il passé? Les siens ne l'ont pas reçu. Non seulement ils ne l'ont pas reçu, mais ils le haïssaient. Et ils s'en sont débarrassés, ils l'ont crucifié. Le Seigneur avait déjà prophétisé, même du temps de Daniel. Avant que le Seigneur Jésus vienne, il a prophétisé qu'il y aurait un tohu-bohu, que tout deviendrait chaotique. Pas seulement le temple a été détruit, mais toute la nation a été éparpillée. C'est très important pour nous de réaliser, de voir qu'au début déjà, la terre était merveilleuse. Les anges même battaient des mains. Ils louaient Dieu. Vous pensez qu'il ferait cela si Dieu avait créé un chaos? Qu'en pensez-vous? Bien sûr que non. Les anges auraient dit, mais Dieu, que fais-tu? Qu'as-tu fait? Pourquoi est-ce que tu as créé cela? Et les scientifiques disent, le Seigneur, Dieu a créé le chaos et après 1 million, 2 millions d'années, c'est devenu mieux. Est-ce que vous pensez vraiment que ça s'est passé comme ça? Comment a-t-il créé l'homme? Il a pris un peu de terre, il l'a jeté là. A-t-il fait ainsi? Non. Le même verbe a été utilisé par Dieu lorsqu'il a créé l'homme dans Genèse 2. Il a formé l'homme de la terre, il l'a formé comme un potier. Vous connaissez les potiers? Il l'a fait avec un but. C'est comme un designer. Est-ce que tu penses qu'un designer fera un chaos? Et Dieu a soufflé son souffle dans l'homme. Et il est dit, et l'homme devint une âme vivante. Le verbe est le même que dans le verset 2, où il est dit que la terre devint un chaos. Alors, est-ce que Dieu a créé Adam en 6 millions d'années? Il attendait que les singes se transforment en un homme? Combien de temps est-ce qu'il lui a fallu? Est-ce que l'homme est devenu, à travers l'évolution d'un singe à un homme, combien de temps faudrait-il à un singe pour devenir un homme? Pourquoi tout le monde croit cela? C'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Ils ne croient pas en Dieu. Dieu a créé Adam à la fin du sixième jour. Peut-être moins d'une heure, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne penses pas que Dieu avait déjà le design de l'homme? Puisqu'il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, il savait déjà à quoi ressemblerait l'homme, il savait ce qu'il allait faire en tant que créateur. Puis, il a soufflé en lui. Combien de temps ça prend de souffler? Quelques secondes, n'est-ce pas? Puis, l'homme est devenu une âme vivante. Combien de millions d'années est-ce que cela a pris? Mais c'est scientifique. Je ne sais pas quelle sorte de scientifique c'est. Il est devenu. C'est le même verbe que la terre devint un tohu-bohu. J'espère qu'aujourd'hui, par cette vie merveilleuse qui est entrée en nous, il faut qu'on apprenne à la laisser croître en nous. Et j'espère que l'Église ne va pas devenir un chaos. Mais que nous serons transformés de gloire en gloire. Pas pour devenir un chaos. Les 60 dernières années de ma vie, j'ai vu tant de groupes devenir chaotiques. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. J'espère que nous ne voulons pas devenir ainsi. Nous devons progresser jusqu'à ce que nous atteignions le but glorieux. Et ce n'est possible que par cette vie éternelle, merveilleuse, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi même au début, tout le monde connaît Jean 3,16. Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ne devienne pas un tohu-bohu, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie de Dieu. Mais nous sommes nés de nouveau, et nous ne croissons pas, alors on devient un tohu-bohu. Qui a bâti Babylone, pensez-vous? Dieu? Non, Dieu n'a pas bâti Babylone. C'est la chrétienté déchue. Si nous ne suivons pas la vérité de Dieu dans sa parole, par sa vie, nous finirons à Babylone. Nous répéterons l'histoire. Si tu ne comprends pas ce principe, alors tu ne comprendras pas la première épître de Jean. Le Seigneur est venu pour nous donner la vie et pour nous la donner en abondance. Pas seulement un petit peu. Lorsque tu es né, tu n'étais pas si abondant, si grand. Regarde ce frère. Il a la vie en abondance. Il est si grand. Tu n'es pas né comme ça, n'est-ce pas? Mais tu as grandi. Tu as été bien nourri. Tu as été entraîné. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Ton âme doit grandir. Mais pour nous, spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes encore des enfants. Corinthiens 3, Éphésiens 4, Hébreux 5 nous disent la même chose. Les chrétiens n'ont pas grandi. Et si tu ne grandis pas, que deviendras-tu? C'est anormal. Un enfant qui ne grandit pas. Imagine que tu restes un bébé après 25 ans. Tu es toujours aussi petit et tu es un bébé et tu dois encore boire du lait. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu veux être comme ça? Bien sûr que non. Comment ça se fait que spirituellement, on ne grandit pas? On reste des bébés en Christ. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas que nous soyons ainsi. Cette vie éternelle, merveilleuse, qui a été semée en nous en tant que semence. Une semence doit grandir, n'est-ce pas? Mais dans 1 Jean, au chapitre 1, il est dit qu'on est né de nouveau par une semence incorruptible. Une semence. Est-ce que tu veux rester une petite semence dans ta vie chrétienne? Si tu plantes quelque chose, qu'attends-tu? Tu plantes une semence de poire coréenne. Qu'attends-tu de cette semence? Si tu l'arroses, s'il y a du soleil, de la lumière, tu t'attends à ce que cela pousse, n'est-ce pas? Pas en un jour. Il y a des histoires qui parlent qu'en un jour, ça pousse. Ça, ce sont des histoires, des contes de fées, ne crois pas à cela. Mais la vie spirituelle, une fois qu'on est né de nouveau par cette semence incorruptible, comment ça se fait que l'Église est devenue corruptible? Il y a quelque chose de faux. Ah, louez le Seigneur. C'est merveilleux de te voir, il a aperçu un frère. Ça fait longtemps que je ne t'ai vu. Cela doit grandir. Ce n'est pas normal si ça ne grandit pas. C'est pourquoi nous avons besoin de l'évangile de vie et nous avons aussi besoin de l'évidence de la vie. L'évangile de Jean est un évangile au sujet de la vie. Mais la première épître de Jean, c'est la manifestation, l'expression, la réalité et l'évidence de cette vie. La vie doit avoir une évidence. Regarde ce frère. Il est l'évidence de la croissance de la vie. N'est-ce pas, Bidje? Tu es l'évidence que tu es vivant. Tu as grandi, Chuchan. Imagine que Chuchan reste petit. Ce n'est pas l'évidence d'une vie normale. C'est l'évidence d'une vie anormale. N'est-ce pas? Qu'en est-il de ta vie spirituelle? Est-elle normale ou est-elle anormale? Est-ce qu'elle n'est pas normale? Est-ce qu'il y a une anomalie? Nous devons tous avoir l'évidence de la vie. J'ai entendu beaucoup de gens qui parlaient de la vie par le passé, la vie, la vie, la vie. Mais à la fin, il y a la mort. On ne voit pas de vie. Ce n'est pas une doctrine. La vie n'est pas une doctrine, ça doit être une réalité. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est une réalité. C'est une évidence. Il y a l'évidence de sa résurrection. C'est la vie de résurrection. Le Seigneur a dit, « J'étais mort dans l'Apocalypse, mais maintenant je suis vivant et je vis pour toujours et même j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Cela veut même dire qu'il a conquis la mort. C'est la réalité, pas une doctrine. Qu'est-ce que je vais dire? Avec cet arrière-plan, lisons 1 Jean. Jean chapitre 1. Il commence. Ce qui était dès le commencement. Ça, c'est le commencement. Lorsque Jean et les disciples ont vu et connu le Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de ce commencement. Le commencement dans l'évangile de Jean, c'est le commencement de Genèse. C'est pourquoi Jean mentionne qu'il a créé toutes choses. Mais ce commencement ici, c'est ce que nous avons entendu. Ils ont entendu le Seigneur Jésus. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, c'est si solide, si réel. C'est l'expérience de Christ. Leur expérience de Christ était si réelle. Mais la chose la plus merveilleuse dans ce verset, c'est que Jean ne dit pas concernant Jésus-Christ. Que dit-il? Concernant la parole de vie. Tu veux dire qu'il ne parle pas de toucher Jésus, d'entendre Jésus, d'examiner, de contempler Jésus? Parce que ce n'est pas l'apparence physique de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est la réalité, la substance de cette vie éternelle. Lorsque tu lis la Bible, et que tu ne l'entends pas. Et tu ne le contemples pas. Et tu ne touches pas le Seigneur. Je ne veux pas dire physiquement. Je ne dis pas physiquement. C'est pourquoi c'est une chose merveilleuse qu'ils disent que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Qu'est-ce que Jean dit ? Je touche l'ordinateur, mais là, il parle de quelque chose de spirituel, de toucher le Seigneur spirituellement. La parole de vie, on peut la toucher. Tu peux le voir, pas avec tes yeux physiques, mais avec les yeux de ton cœur, les yeux intérieurs. Tu peux l'entendre, pas avec ses oreilles physiques, mais dans Apocalypse, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'attends-tu ? T'attends-tu à entendre une voix de ce coin-là ? Une voix qui vient de là ? Non. Ce sont les oreilles intérieures. Tu l'entends parler intérieurement. Est-ce que tu l'entends souvent ? Chaque jour ? Tout le temps ? Sa vie doit être manifestée. Elle a été manifestée dans le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, elle doit être manifestée par toi et moi, parce que nous avons cette vie. Et ça ne suffit pas juste de l'avoir, mais elle doit maintenant être manifestée par ceux qui possèdent cette vie merveilleuse. Mais si tu ne t'occupes pas de cette vie, si tu ne la vois pas, si tu ne la touches pas, si tu ne l'entends pas, tu ne peux pas la manifester. Tu vas chercher des doctrines. Tu vas être un théologien. Tu seras prédicateur de la Bible. Mais tu ne peux pas transférer cette vie, tu ne peux pas la donner plus loin, tu ne peux pas la manifester. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la lettre de la parole. Il dit même que la lettre tue et que la connaissance te gonfle, elle te rend orgueilleux. Cette vie doit être manifestée. Et c'est ce que les apôtres ont expérimenté, pas l'apparence physique du Seigneur. Même dans Ésaïe, il dit qu'il n'y avait pas de beauté en lui qu'on puisse apprécier. Est-ce que tu apprécies comment, à quoi il ressemble ? Non, tu n'as pas besoin d'une image du Seigneur. Les gens ont des images magnifiques, mais non, ça c'est pas Jésus. Cho Chang, est-ce que je veux que je dessine juste une image d'un Mickey et je dis ça c'est Cho Chang, est-ce que tu serais content? Non, ok, je dessine un jeune homme très beau et je dis que c'est toi. Ça joue? Non. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas moi. C'est pourquoi le Seigneur ne nous a donné aucune image de lui-même, parce qu'il est la parole vivante et c'est cela qui est important. Si tu veux connaître le Seigneur Jésus aujourd'hui, tu dois le connaître par la parole vivante de Dieu. Et l'onction qui habite en toi doit correspondre à la parole. Si on vient au résumé, on peut lire et s'arrêter. Je ne veux pas faire trop long. La manifestation de la vie éternelle, elle doit être réelle dans notre expérience. Si elle n'est pas réelle dans ton expérience, il n'y a rien. C'est pourquoi j'en dis, voilà, il l'a entendu, il l'a vu, il l'a contemplé et il l'a même touché. C'était si solide dans son expérience. Dans ta maison, John, tu as un modèle d'un FA-18. C'est un Lego, n'est-ce pas? Un Lego d'un FA-18. Il est grand comme ça à peu près. Est-ce que tu peux l'utiliser pour voler? Tu peux pas voler encore pour aller en Corée avec cet avion. Alors, à quoi ça sert de l'avoir? Il n'y a pas de moteur, mais il a l'air très réel, n'est-ce pas? Toutefois, il n'est pas réel. Ah, si, donne-moi une seule bonne raison pour l'avoir. Bien sûr, juste pour comme décoration. Mais c'est tout. Il ne peut pas voler. Pauvre John, il ne pouvait se permettre d'acheter un FA-18 qu'en Lego. Qu'est-ce que tu as besoin pour obtenir un véritable? C'est très difficile. Je ne suis même pas sûre qu'il te le vendrait. À quoi ça sert de toute façon? Où vas-tu le parquer? Dans ta cour? Ou dans la rue devant chez toi? À quoi ça sert d'avoir la vie éternelle si tu ne peux pas la manifester? Est-ce que tu veux emprisonner le Seigneur Jésus dans ton cœur? J'aime cette parole. Et la vie a été manifestée par le Seigneur Jésus-Christ. Elle était pleinement exprimée, manifestée. Maintenant, cette vie est en toi, comme elle était dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors que vas-tu faire? Juste la mettre comme décoration? Comme ce FA-18, ça doit être véritable. La vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. si tu partages la parole à quelqu'un, il faut que la vie coule de ton être intérieur. Et nous l'avons vu, et nous l'entendons, et nous l'annonçons à vous aussi. Elle nous a été manifestée par Jésus-Christ. C'est la fin du verset 2. Qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et en réalité, notre communion, ce n'est pas une communion doctrinale, c'est la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est la réalité de la communion. On pourra continuer d'avoir plus de communion demain. J'espère que le Seigneur va réveiller notre esprit. Avec cette vie éternelle, on peut bâtir Sion, ici, en Corée du Sud. Amen. Et il n'y a pas de tohu-bohu. Il n'y a pas de tohu-bohu. Même l'allemand a adopté ce terme. Tous les Allemands savent de quoi il s'agit. Tohu-bohu. C'est chaotique. Louez le Seigneur. On peut avoir quelques prières.